RFI, 9h30 à Paris, 7h30 en temps universel.
RFI Matin.
L'heure d'un nouveau journal avec vous, Nemo Rampis.
Et c'est Léon XIV qui succède donc à François. C'est l'Américain Robert Francis Prévost qui a été élu chef de l'Église catholique. Une élection très suivie un peu partout sur le continent africain. Nous sommes en Côte d'Ivoire où les fidèles ont prié pour Léon XIV. Un nom pas choisi au hasard. Vous entendrez un responsable religieux togolais. Dans le reste de l'actualité de ce journal, 5 ministres de l'ancien président sénégalais Macky Sall renvoyés devant la Haute Cour de justice. 4 d'entre eux accusés de détournement de fonds. Le 5e visé pour corruption. Au Mali, contexte toujours très tendu. Les autorités de transition, pour rappel, ont suspendu toutes les activités politiques du pays. Ce vendredi, un rassemblement à l'appel des partis politiques était prévu. Il est finalement reporté, font savoir les organisateurs qui rejettent la décision de Bamako. Et puis de la musique à la fin de cette édition. The Final Show, signé DJ Snake, c'est demain au Stade de France. Le DJ franco-algérien devant près de 100 000 personnes. L'Église catholique a donc un nouveau pape depuis hier. L'Américain Robert Francis Prévost a été élu au 4e tour par les cardinaux électeurs. Il a choisi le nom de Léon XIV, lui qui a été fait évêque en 2015, puis créé cardinal par François en 2023. Léon XIV qui semble s'inscrire dans la lignée de son prédécesseur, et bien qu'il ne soit pas encore très connu, réputé discret, les communautés catholiques prient déjà pour sa réussite. Illustration à la paroisse Saint-François-Xavier d'Annono, où s'est rendue notre correspondante à Abidjan, Bintadiagne, reportage.
Le père Christian Diédry entame sa messe en expliquant aux fidèles qu'un nouveau pape vient d'être choisi.
De nous donner en ce jour un pasteur pour notre Église universelle, le cardinal Robert Francis Prévost.
Le vicaire de cette église d'Annono, un quartier populaire d'Abidjan, espère que le pape Léon XIV saura parler à tous et à toutes.
Pour moi, il n'y a pas de priorité à partir de chrétiens, de prêtres, de religieux, religieuses. Non. La mission de ce pasteur, c'est la mission que l'Esprit lui met à cœur. C'est cela la mission même du pasteur universel.
Plusieurs dizaines de personnes sont présentes ce soir, parmi elles Modeste Kouakou. Le nouveau pape, dit-il, doit continuer de tisser des liens avec toutes les communautés.
Le pape, avant sa mort, il parlait beaucoup de synodalité, où les laïcs et les consacrés doivent marcher ensemble. Pour moi, ça va se poursuivre.
Lambert, un autre fidèle, est sensible à l'appel à la paix lancé hier soir par le pape Léon XIV.
Ce que j'envisage, c'est qu'il fasse de telle sorte qu'il y ait la paix. La paix dans ce monde aujourd'hui qui a plein de guerres un peu partout.
Dans cette paroisse, les fidèles chantent l'hymne à la gloire en l'honneur du pape Léon XIV. Ils espèrent que son pontificat sera marqué par la paix et l'espérance. Bintadiagne, Abidjan, RFI.
Et ce nom de Léon XIV, choisi par Robert Francis Prévost, n'a rien d'anodin. Le nom du pape, toujours une indication sur la direction et les priorités de son pontificat. Je vous propose d'écouter Monseigneur Dominique Guigbilé, évêque de Dapaong. C'est au Togo. Un choix, signe de continuité entre les deux papes, selon lui.
Le choix du nom même est très révélateur. Parce que Léon XIII, le dernier pape qui a porté donc le nom de Léon, était un homme très attaché aux questions sociales, au développement des peuples, à la lutte contre les injustices de tout genre. Et je pense que c'est parce que le pape Léon XIV s'inscrit dans cette ligne lointaine de Léon XIII qu'il a pris le nom de Léon XIV. Et le pontificat de Léon XIII a beaucoup de ressemblances avec le pontificat du pape François qui vient de se terminer. Donc, le pape Léon XIV s'inscrit dans la continuité de la papauté du pape François et du pape Léon XIII.
Monseigneur Dominique Guigbilé, évêque de Dapaong au Togo, il était joint par Wely Diallo. Je rappelle que notre invité ce matin était Isidore Ndaiwel, figure de l'Église catholique en République démocratique du Congo, coordonnateur du comité laïque de coordination. Il était au micro de Christophe Boisbouvier, un entretien que vous pouvez réécouter à tout instant sur RFI.fr.
Dakar, 92 FM.
Au Sénégal, ce sont 5 anciens ministres qui seront bientôt jugés par la Haute Cour de Justice. L'Assemblée nationale a adopté une résolution de mise en accusation allant dans ce sens. Une série de procès va ainsi s'ouvrir sous peu devant cette juridiction. Seule habilité à connaître des faits reprochés à d'anciens ministres ou chefs d'État. Ces accusations portant principalement sur des soupçons de détournement des fonds de lutte contre le Covid-19, à l'exception de l'ancien ministre de la Justice. Lui est entre autres accusé de corruption. RFI Dakar, Birahim Touré.
Moustapha Diop, Amadou Mansour Faye, Aissatou Sofie Gladima, Salimata Diop et Ismaïla Major Fall, tous d'anciens ministres qui ont servi sous le magistère de Macky Sall, constituent le premier lot de ministres qui vont passer devant la Haute Cour de Justice. Ainsi en a décidé l'Assemblée nationale qui a voté ce jeudi les résolutions de mise en accusation pour faire la lumière sur la gestion des finances attribuées à la lutte contre le coronavirus. Une partie de ce fonds, Force Covid-19, destiné à soutenir les ménages et entreprises en difficulté durant la pandémie, aurait été détourné, selon un rapport de la Cour des comptes qui a poussé le parquet financier de Dakar mi-avril dernier à annoncer sa volonté de poursuivre devant la justice un certain nombre de personnes, dont d'anciens ministres. Les députés ont donc majoritairement décidé de donner le feu vert à la justice. Depuis 1960, la Haute Cour de Justice n'a été sollicitée qu'à 2 reprises, en 1963 pour juger l'ancien président du Conseil Mahamadou Dia et en 2005, l'ancien premier ministre Idrissa Seck, qui avait bénéficié finalement d'un non-lieu total. Birahim Touré, Dakar, RFI.
La Guinée à présent et la procédure ouverte contre le président déchu Alpha Condé ainsi que contre 26 hauts responsables pour les crimes de sang commis sous la présidence d'Alpha Condé. Procédure qui semble à l'arrêt. C'est en janvier 2023 qu'elle avait été ouverte et depuis une centaine de victimes et une grande partie des mises en cause ont été entendues. Pour rappel, le bilan des ONG de défense des droits humains parle de plusieurs centaines de personnes qui ont été tuées lors des très nombreuses manifestations qui ont éclaté pendant les 11 années au pouvoir d'Alpha Condé. Je vous propose d'écouter Maître Tierno Souleymane Baldé, président de l'Institut de recherche sur la démocratie et l'état de droit, également avocat des victimes, qui a décidé de s'adresser directement au président de la transition, Mamadi Doumbouya.
Nous l'avons adressé un courrier pour solliciter son implication pour l'aboutissement de l'enquête préliminaire qui a été initiée depuis le 20 janvier 2023 concernant les crimes et délits commis sous le régime de M. Alpha Condé. Il y a eu des centaines de victimes qui ont été auditionnées. Certaines personnes qui sont accusées d'avoir commis ces crimes ont été aussi entendues. Mais depuis une certaine période, nous constatons un arrêt au niveau des activités de la commission qui a été mise en place. Et c'est la raison pour laquelle nous avons adressé un courrier au niveau de la présidence, aussi au premier ministre, le ministre de la Justice et le procureur général près de la Cour d'appel de Conakry.
Maître Tierno Souleymane Baldé, président de l'Institut de recherche sur la démocratie et l'état de droit en Guinée. Au Mali, une centaine de partis politiques rejettent la suspension jusqu'à nouvel ordre de leurs activités. Ils l'ont fait savoir dans un communiqué daté de mercredi. Un peu plus tôt ce 7 mai, les autorités de transition avaient annoncé la décision sur décret du chef de l'État, le général Assimi Goïta. Une suspension qui concerne également les associations à caractère politique et qui intervient quelques jours après le début d'un mouvement de contestation inédit depuis l'arrivée des militaires au pouvoir et alors qu'un rassemblement était prévu ce vendredi. Plus de détails avec Magali Lagrange.
Indignés mais pas surpris, les partis politiques pour la Constitution rejettent catégoriquement la suspension de leurs activités qui s'inscrit selon eux dans une tendance systémique de restriction de l'espace civique et politique par les autorités maliennes de transition. Tout en dénonçant des actes d'intimidation et de violence à leur encontre, les partis politiques maliens annoncent leur décision de lancer une procédure judiciaire en urgence pour tenter d'obtenir l'annulation de la suspension de leurs activités, une mesure qui porte atteinte aux libertés fondamentales d'association, d'opinion et d'expression. Pour eux, le décret est illégal. Aucun fait précis, rappelle-t-il, n'est reproché aux partis politiques. La charte qui les régit est toujours en vigueur au Mali et celle-ci ne donne pas à l'autorité administrative le pouvoir de suspendre un parti, une compétence exclusive des tribunaux. Les partis politiques maliens appellent donc les autorités de transition à la levée immédiate d'une mesure qu'ils jugent liberticide et démocraticide. Toutes les composantes de la société maliennes, disent-ils, doivent pouvoir participer à la vie publique.
Les explications de Magali Lagrange. Et dans un communiqué diffusé hier soir, les partis politiques pour la Constitution ont condamné les manœuvres visant, je cite, à provoquer des affrontements violents entre Maliens lors du rassemblement prévu. Les partis dénoncent notamment des menaces sur les réseaux sociaux et de fausses informations diffusées concernant le lieu et l'heure du meeting de ce vendredi. Un rassemblement finalement reporté à une date proche, disent ces mêmes organisateurs. Et puis on referme cette édition en musique avec un artiste internationalement connu et reconnu. Vous avez peut-être déjà dansé, chanté sur ses sons. Il est franco-algérien et va remplir demain le Stade de France, capacité 80 000 personnes, mais bien plus de billets vendus, et cela en quelques secondes. Lui, c'est DJ Snake. DJ Snake qui a baptisé ce concert The Final Show. Présentation avec Edmond Sadaka.
Ces 80 000 places du Stade de France se sont arrachées en quelques minutes à peine à l'ouverture de la billetterie en décembre 2023. Les fans qui ont réussi à décrocher le précieux sésame devraient assister ce samedi soir à un moment riche en émotions, car si DJ Snake l'a baptisé The Final Show, ce n'est pas par hasard, évidemment. Il affirme que ce sera très probablement son dernier concert en solo à Paris, car il estime avoir atteint la plus haute marche.
Si demain il y a un stade qui est plus grand que le Stade de France, je le ferai, mais on va tout le temps vers le haut. Je ne me verrai pas redescendre en gamme, même si c'est des salles que j'adore. En tout cas, pour mon projet solo DJ Snake, je voulais finir au top, un peu à la Zidane.
Une fois le concert du Stade de France terminé, la soirée se poursuivra jusqu'au bout de la nuit à quelques kilomètres de là, à l'Accord Arena de Paris, devant 20 000 spectateurs. Et là encore, les billets se sont envolés en moins de 5 minutes.
Et ça danse déjà dans le studio. Ouais. DJ Snake, invité culture d'Edmond Sadaka ce matin.
Merci Nemo en peace.